À Libre-Échange, ce midi, je vous disais qu'on allait parler des garderies en milieu familial. Il y a une offensive qui est lancée avec, évidemment, le bureau coordonnateur du côté de Gaspé, Voyage de mon enfance, avec, évidemment, qui coordonne le bureau coordonnateur avec trois institutions. Gilles Chapados est le directeur pour nous parler de cette offensive-là et de combien, évidemment, on veut créer de garderies en milieu familial. Bonjour.
Oui, bonjour.
Donc on a de la place pour une dizaine, je crois, hein, de garderies en milieu familial.
Oui, exactement. Donc on dit une dizaine, tout dépendant. La moyenne des requérantes demande 6 places, mais ça peut être un peu moins ou ça peut se rendre jusqu'à 9 avec un adjoint. Donc c'est pour ça qu'on dit une dizaine pour environ 60-65 places de disponibles.
Bon, alors, ce qu'on veut savoir ou donner comme information aux gens qui auraient peut-être de l'intérêt, c'est comment ça fonctionne pour créer justement une garderie en milieu familial subventionné. Alors, c'est vous qui coordonnez tout ça. Est-ce que c'est compliqué de décider d'ouvrir une garderie en milieu familial?
C'est pas compliqué. Il y a plusieurs étapes, mais ça se fait plutôt bien, une étape à la fois. Dans le fond, imaginons qu'on a une requérante qui a de l'intérêt, nous appelle, pose des questions. Nous, ce qu'on fait, on lui remet un formulaire. Dans ce formulaire-là, il y a les étapes principales qui vont lui permettre d'ouvrir son milieu. Donc, quand on parle des étapes principales, on parle d'avoir un cours de secourisme adapté à la petite enfance. On parle de vérification d'antécédents judiciaires, de suivre une formation web de 45 heures. Ce qui est important à dire, c'est que cette formation-là est remboursable par le bureau coordonnateur à la fin du processus. Donc, c'est dans les alentours de 400 $ qui est remboursable. Cette formation-là de 45 heures touche cinq grandes sphères, qui est le programme éducatif, la santé et sécurité, l'alimentation, quel est le rôle d'une responsable, ainsi que le développement de l'enfant. Donc, avec cette formation-là, quelqu'un même qui est pas formé ou qui aime les enfants, mais qui ne sait pas trop quelles sont les étapes ou comment s'enligner, qui a un peu une crainte, bien, avec cette formation-là, ça donne une base pour bien partir.
C'est intéressant. Donc, je ne sais pas, dans ces points-là que vous avez mentionnés.
Dans le fond, les responsables, c'est pas des gardiennes, dans le fond. Quand on dit RSE, c'est des responsables des services éducatifs. Donc, ils ont une responsabilité de produire une cohérence dans leur activité qui correspond à des objectifs de développement chez les enfants en fonction de leur âge des enfants, puis d'assurer qu'ils deviennent un facteur positif dans le développement de l'enfant dont ils s'occupent.
Donc, il faut développer une programmation là, d'éducation. À quoi? Puis c'est assez large, ça, donc on peut le faire de différentes façons ou c'est très encadré?
C'est assez large. Nous, on propose des outils, évidemment, mais dans le fond, ça touche les sphères de développement des enfants, là, qu'ils soient motricité fine, motricité globale, socio-affectif, langagier, cognitif. Donc, on essaie d'avoir des activités, des expériences proposées aux enfants qui vont lui permettre de développer toutes ces sphères-là pour être dans l'optimal du développement de l'enfant.
On parlait tantôt de nourriture, ça m'intrigue. Est-ce que il y a un menu particulier qu'on doit développer aussi?
Oui, c'est assez large. Par ailleurs, ce qu'on demande, c'est que le menu respecte le guide alimentaire canadien et qu'il offre une variété. Donc, on peut dire, imaginons un macaroni aux légumes, ça respecte le guide alimentaire canadien, mais si on mange ça 14 jours en ligne, ça devient plus nécessairement adéquat. Donc, l'idée, c'est d'avoir de la diversité tout en offrant... respectant le guide.
OK.
À partir de là, c'est libre à chacune des responsables.
On parlait de santé et sécurité aussi. Est-ce que ça demande certains aménagements dans le milieu où on va recevoir ces enfants?
Ça dépend d'un milieu à l'autre. C'est sûr, c'est de s'assurer, exemple, d'avoir des objets coupants qui ne sont pas à la portée, là, des ciseaux ou des couteaux qui soient hors de la portée ou dans des tiroirs barrés, d'avoir des instincteurs, avertisseurs de fumée, monoxyde de carbone, des trucs comme ça, d'avoir une sécurité globale, c'est-à-dire s'il y a une mezzanine, d'avoir une rampe qui est assez haute pour empêcher un enfant de sauter par-dessus. C'est général, ça dépend vraiment d'un milieu à l'autre, mais c'est de sensibiliser avec, exemple, cette formation-là, les requérantes un peu de quelles sont les bonnes pratiques à avoir en matière de santé et sécurité, quels sont les aménagements les plus sécuritaires possibles.
Puisqu'on parle de l'aménagement, le lieu comme tel, est-ce que, donc, on dit milieu en garderie familiale, est-ce que c'est dans la maison, ça peut être ailleurs. Comment ça fonctionne sur cet aspect-là?
Oui, en fait, l'exigence principale, c'est d'habiter dans l'endroit où l'activité de service de garde se déroule. Donc, on ne pourrait pas louer un local ou un endroit ou un appartement qui est à quelques kilomètres de la maison pour aller offrir ses activités dans ce milieu-là. À partir de là, que ce soit une maison, un condo, un détaché, un appartement, c'est pas tant important. Ce qu'on demande, par ailleurs, c'est d'avoir une cour extérieure accessible pour que les enfants puissent jouer dehors tous les jours. Donc, c'est pas juste un stationnement entre deux autos, mais qu'il y ait un endroit adéquat pour que les enfants puissent s'épanouir à l'extérieur.
Est-ce qu'il y a des investissements à faire pour quelqu'un qui va démarrer, je pense, bon, dans la maison, donc par rapport aux exigences qu'on peut avoir pour démarrer une garderie en milieu familial?
Ça dépend aussi. Oui. Je dirais que ça, encore là, c'est du cas par cas. Quand on tombe, exemple, une maman de deux enfants qui sont un peu plus vieux, ben la plupart du temps ont déjà la plupart des infrastructures, des installations. Puis là, rendu là, ben il y a des gens qui veulent être à fine pointe de la technologie, qui veulent acheter les derniers jouets, les derniers cris, avoir le plus conforme, le plus beau possible. Il y en a d'autres qui sont plus d'une manière un peu utiliser le recycler, l'usager. Donc, dans les coûts pour opérer, c'est vraiment ça passe d'un extrême à l'autre parmi nos responsables qu'on a présentement.
Je sais qu'il y a de l'aide qui est possible aussi pour les personnes qui veulent démarrer un projet comme ça. On parlait de peut-être justement d'investissement qu'on voudrait faire dans la maison, modifier des pièces, acheter de l'équipement.
En termes d'aide, il y a de l'aide financière, il y a de l'aide humaine, là, globale. Dans le fond, on a la MRC Côte-de-Gaspé et la SADC qui font de l'aide globale au démarrage de l'entreprise. Donc, tout ce qui touche au budget, démarrage, l'aide assurance, bref, tout le tralala qui tourne autour de ça. La MRC a le fonds de soutien à l'entrepreneuriat qui va aller financer, si on peut dire, un 30% des dépenses admissibles. Donc, ça peut devenir intéressant, tout dépendant des dépenses encourues. Il y a également le fonds aux travailleurs autonomes, qui peut être aussi applicable pour la MRC. Là, c'est certaines conditions s'appliquent, tout dépendant du statut d'emploi de la personne. Donc là, on parle de 30% subventionné, un 70% que la travailleuse doit fournir. Mais dans tous les cas, que ce soit la MRC, la SADC, même Accès Microcrédit Gaspésie, il y a des prêts disponibles pour combler l'écart aux besoins.
Faire ce travail-là, c'est enrichissant pour la personne, on va y venir, mais est-ce que c'est enrichissant aussi côté revenu? Est-ce que, donc, avec les dépenses et ce qui reste au bout, donc ça ressemble à quoi le salaire, le revenu d'une personne qui ouvre une garderie en milieu familial?
Oui, bon, on parle d'une moyenne environ, on dit 45-50, ça peut aller à 55 000 par année, mais pour être plus précis encore, la subvention qui est offerte, dans le fond, est 47 et 43 pour des poupons par jour et 37 et 81 par jour pour les plus de 18 mois. Donc, si on fait le calcul, fois le nombre d'enfants, fois le jour d'ouverture, on parle d'une... un jour d'ouverture optimal à 237 jours par année. Là, il y a certaines requérantes ferment plus de journées que ça. Là, ça devient libre à eux. Mais donc, si on fait des règles de trois, là, on est capable de assez rapidement faire un estimé du revenu potentiel.
OK. Après ça, bien là, évidemment, il faut appliquer les dépenses pour voir qu'est-ce qui va rester. En étant travailleur autonome, évidemment, on peut aller récupérer aussi certains avantages. Par rapport à ces dépenses-là, là, je pense à la maison, dépenses encourues et tout ça.
Tout le système fiscal des travailleurs autonomes, donc ces travailleurs à la maison, donc ça devient encore une fois du cas par cas, tout dépendant du pourcentage d'utilisation de la maison aux fins de l'entreprise. Donc, si on parle que c'est un sous-sol complet, donc c'est 50 %, donc ça, on peut aller à 50 % de tous les dépenses reliées, donc, chauffage, hypothèque, Internet, le déneigement, l'épicerie, tout ce qui touche à ça. Tout ce qui touche aux activités de l'entreprise peut être admissible en termes de dépenses imposables. Puis à partir de là, bien, comme ces travailleurs autonomes, ça devient également en lien avec le revenu familial et la situation familiale. Si c'est quelqu'un qui est seul à la maison, est-ce qu'elle a des enfants à sa charge? Est-ce que le conjoint-conjointe a un revenu à quelle grandeur? Donc, c'est tout ce qui est pris en compte, là, comme un peu partout là, lorsqu'on fait nos impôts.
En terminant notre émission, donc voilà un peu pour tout cet aspect-là, démarrer l'entreprise, la formation, les exigences, l'encadrement, les investissements, le salaire. Mais en termes d'individus, faut se sentir bien aussi là-dedans, là, donc dans cette démarche-là, et aussi d'être avec des tout-petits à la journée longue. Donc, c'est une belle expérience de vie quand on décide de le faire, j'imagine. Il faut être à l'aise aussi dans ce sens-là, là.
Première étape, c'est avoir un peu une vocation avec les enfants, d'aimer les enfants, d'être bien à leur compagnie, puis de se sentir épanoui en leur présence. Également, d'avoir un désir de structure, d'organisation, puis d'offrir ces services de pas juste de garde, mais de garde éducatif. D'être responsable d'un service éducatif, responsable du développement des enfants, d'être au cœur de leur développement au quotidien, de développer une belle relation de confiance avec les parents. Puis souvent, ça peut être vu un peu comme un métier galvaudé, parce que si on se remémore à peu près nos premiers emplois qu'on a eu dans notre vie, c'est garder des petits voisins dans la rue, dans la cour, avec des cours de gardiennage avertis. Quand même tout autre. C'est pas juste comme on disait précédemment, garder des enfants, mais c'est d'être au cœur de l'épanouissement, au cœur du développement, et de sentir qu'on peut faire un peu la différence pour amener ces enfants-là à créer des facteurs de protection, puis les amener justement sur les bancs d'école, prêts, outillés à faire face à un monde scolaire et une vie sociale. Là, en fait. C'est vraiment une expérience humaine.
Donc, oui. C'est un processus qui peut prendre combien de temps pour quelqu'un qui décide d'y aller?
Environ, ça joue de 1 à 3 mois selon le sérieux et la rapidité de la requérante. Ce qui est important aussi de dire, c'est que le bureau coordonnateur... on a un rôle, nous. Donc, on a un rôle d'accompagnement. Oui, au démarrage de l'entreprise, on est là pour supporter dans les étapes, puis donner un coup de main, puis donner des informations, répondre aux questions. Mais d'un coup que la requérante a été reconnue, elle a ouvert son milieu, elle n'est pas seule. C'est pas vrai qu'elle est seule chez eux. Le bureau coordonnateur, on a une conseillère pédagogique qui est là pour répondre aux questions, pour aller dans le milieu, pour observer, aider, conseiller. On a une agente de conformité qui donne aussi des conseils, éducatrice spécialisée aux besoins. Donc, on est toute une équipe au bureau coordonnateur qui supporte la travailleuse dans son parcours. Donc, c'est important de la nommer aussi. Là, même si elle est travailleuse autonome, si elle le souhaite, elle a des services qui font qu'elle se sent dans une équipe quand même.
Bon, alors, les personnes intéressées, ben, vous communiquez avec vous, le bureau coordonnateur, et puis vous allez les diriger dans toute cette expérience-là et les étapes à suivre. Ben, merci beaucoup, Gilles Chapalos, pour nous avoir donné ces détails-là, directeur au Centre de la petite enfance Voyage de mon enfance. Merci.
Ça me fait plaisir. Merci à vous.